Nous allons peut-être commencer cette conférence qui tournera peut-être à un échange avec vous, si vous le souhaitez. Donc moi, je voulais d'abord vous dire que je suis très honoré de la demande que Simon a faite de participer à la présentation de son livre « Résister pour sortir du développement ». Il m'avait demandé d'en assumer la préface, ce qui était une grande fierté pour moi. Donc je suis ici en tant qu'animateur de circonstances, mais également surtout en tant que Camille et qu'un homme engagé qui doit beaucoup à la rencontre de Simon et de quelques amis qui sont ici dans cette salle et qui m'ont ouvert les yeux sur la société, sur le monde et sur les autres et qui m'ont appris à réfléchir. Mais je ne suis pas ici pour raconter ma vie, et nous ne sommes pas ici pour raconter celle de Simon, encore qu'il soit utile pour un certain nombre d'entre vous, assez peu nombreux sans doute dans cette salle, qui ne le connaissent pas, quel a été l'itinéraire de Simon. Son itinéraire commence avant lui, notamment avec ses parents, et en particulier son père, Bernard Charbonneau, auquel il se réfère bien évidemment dans son dernier livre. La pensée de Bernard Charbonneau a été très bien expliquée par quelques-uns d'entre nous, je pense en particulier à Daniel Cérézuel, qui a très bien explicité l'œuvre de Bernard Charbonneau, qui est concentrée autour de ce qu'il appelait la grande mue, mais qui est surtout, avec Jacques Ellul bien évidemment, le penseur qui a était l'un des tout premiers à porter une critique non marxiste des institutions et de la société, et qui nous a fait comprendre que le combat de l'écologie, c'est d'abord le combat de la liberté et le combat des libertés. Et vous voyez bien aujourd'hui que l'écologie commence à rencontrer la société. Cette affaire n'est plus mise en cause, mais pendant bien longtemps, les écologistes ont été considérés souvent comme des conservateurs, quelquefois comme des réactionnaires, ou comme des gens qui n'avaient à parler que de l'environnement, oubliant qu'il y a un lien indissociable entre l'environnement et notre condition sociale et humaine. Et nous le devons beaucoup à Bernard Charbonneau, qui d'ailleurs est au fond celui qui, avec Ellul et quelques autres rares, a initier cette branche de l'écologie qui n'a rien à voir avec celle des États-Unis, initiée plutôt au XIXe siècle par des philosophes comme Ralph Waldo Emerson ou Henri David Thoreau, le père de la désobéissance civile. Un livre comme « Je fus » n'a rien à voir avec Walden ou « La vie dans les bois ». Et nous nous reconnaissons, nous, écologistes d'aujourd'hui, dans cette filière initiée par les penseurs sur la liberté, penseurs sur la technique. Donc Simon est évidemment né dans ce milieu-là, et dans cette pensée, et il a toujours été un continuateur de la pensée de son père, mais il ne s'est pas contenté d'être quelqu'un qui a voulu faire connaître la pensée de son père et au-delà cette critique de la société, et il le vit aussi. D'une certaine manière. Sa carrière universitaire a été longue. Il était maître de conférence à Bordeaux 1. Il a enseigné l'hygiène et la sécurité à l'IUT qui porte le même nom. Il a formé donc des générations de gens qui aujourd'hui sont confrontés aux nouveaux risques technologiques. Mais même s'il ne le dit pas, moi je peux le dire pour l'avoir fréquenté longtemps, souvent et de près, qu'il a payé chèrement, trop chèrement, ses engagements et le fait qu'il s'appelait Charbonneau et qu'il défendait une certaine conception de mode de vie, de mode de consommation, mais aussi de comportement moral et éthique. Et il l'a payé dans sa carrière universitaire, qui aurait pu être beaucoup plus florissante que celle qu'il a menée, même s'il est aujourd'hui un consultant et un de nos tout meilleurs spécialistes du droit de l'environnement en France. Et donc, à ce titre, c'est vrai que Simon, même s'il m'a dit « tu n'es pas là pour me flatter », je pense que sa vie, ce qu'il est, est aussi une manière d'exemple. Il a ses défauts, comme nous tous, mais il assume pleinement ce qu'il pense et ce qu'il est. Et il assume aussi, d'une certaine manière, un héritage qui est très lourd à porter. Et ce n'était pas facile, dans les années des Trente Glorieuses, de vivre de manière totalement décalée par rapport à la norme, qui était forte, qui s'imposait, qui était d'une certaine manière totalitaire. Et je crois que ça, c'est une forme de courage, le courage de vie, qui peut être aussi, qui peut devenir, quand on fait certains choix, du courage politique. Ceci dit, le livre de Simon est complètement dans l'actualité, si je prends ma casquette d'ancien journaliste, puisque son titre est « Résister au développement ». Il est d'autant plus d'actualité que tout le livre de Simon consiste à nous expliquer, à décortiquer cet oxymore « développement durable » et à nous montrer que malgré le poids de la crise écologique, de la crise économique et sociale qui en découle, on est encore nos sociétés et les politiques qui les dirigent croient encore beaucoup à cette mythologie du développement et n'arrivent pas à s'en dépêtrer, et au point même qu'ils ont trouvé cette manière de lui donner une pérennité à travers l'expression développement durable. Donc, le livre de Simon va beaucoup plus loin parce que c'est effectivement un livre de résistance à de nouvelles normes qui sont en train de se mettre. D'ailleurs, c'est aussi un livre contre les sociétés normatives. Oui. C'est un livre donc qui, dans la continuité de la pensée de son père, accorde une grande place à la question de la liberté. Alors, comme je suis journaliste et comme il y a eu des débats récents sur ce que l'on appelle la taxe carbone, que nous préférons appeler la contribution climat-énergie, je demanderai à Simon de commencer par cet aspect-là, tout en vous disant ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les médias depuis le début de ce débat, qu'il est une illustration, j'allais dire quasiment obscène, de ce que peut être le rabotage du débat politique, de ce que les hommes et les femmes politiques, je pense à Ségolène Royal, obsédés par la séduction plutôt que par la conviction. Et la politique n'est pas l'art de la séduction, ça c'est pour les artistes, les comédiens, mais la politique c'est l'art de la conviction, et pour convaincre il faut du temps, le temps du débat, le temps de l'échange, le temps de la confrontation. Et sur cette question de la taxe carbone, on n'a pas pris le temps, on a regardé les sondages et on a dit de manière très hypocrite et très ambiguë, nous sommes contre parce que ça va condamner les pauvres, sans expliquer que si on ne fait rien aujourd'hui, ce sont les pauvres qui seront encore plus condamnés demain et qui paieront la note encore plus chère. Et donc je pense que cette recherche de la vitesse, pour faire référence à un autre auteur que nous aimons ici, qui s'appelle Paul Virilio, la cumulation de la vitesse, de la séduction et du spectacle donne cette manière de miner la démocratie, de délégitimer le débat politique, et on en arrive à effectivement des décisions qui n'ont rien à voir avec ce que pourrait être le début d'une véritable fiscalité écologique. Donc derrière la taxe carbone, je pense que ce qui est important, et Simon va y venir, c'est à la fois la question de ce que pourrait être un vrai débat démocratique et en même temps comment on tord le cou à une idée absolument nécessaire en faisant une sorte de salimondi qui n'incitera pas les Français, c'est-à-dire les particuliers, les entreprises et les collectivités, à s'inscrire dans une autre mode de production, mode de consommation et mode de vie. Donc des fois, on a le sentiment que toutes ces années passées à combattre et à essayer d'expliquer ne servent à rien. Simon.
Oui, mais si vous voulez, pour faire quelques observations sur ce, pour répondre à ta question sur la taxe carbone, je dirais que la manière dont, en quelque sorte, la question est abordée, elle est révélatrice d'une élite politique qui est complètement désorientée. Je veux dire, qui ne sait pas comment répondre à ces questions qu'ils ne se sont jamais posées. Et on ne peut pas se les poser comme ça du jour au lendemain. Donc les réponses politiques, elles sont dans l'incohérence la plus totale, comme d'ailleurs qui découle du concept de développement durable. C'est ce qu'un auteur qui a écrit un petit livre, qui est très bien fait, s'appelle « La politique de l'oxymore ». Effectivement, ça consiste à, en quelque sorte, faire semblant d'appuyer sur le frein et en même temps d'appuyer sur l'accélérateur. Bon, pour se payer le platane, c'est radical, ça. Alors là, il faut bien dire, c'est d'une stupidité sans nom. Et au fond, toute la politique tourne un peu sur cette manière d'aborder les questions, c'est-à-dire qu'on ne les aborde pas, effectivement, de manière sérieuse. Il faut bien se le dire. Dans la mesure, surtout, on n'a pas réfléchi. Il n'y a pas de pensée politique anticipatrice dans ce domaine. Il y en a, mais exprimée de manière individuelle, quoi. C'est ça ce qu'il y a de terrible, quoi. Et ce dont on a le plus besoin, c'est ça. Alors, ceci étant dit, pour parler plus précisément de la taxe carbone, bon, la fiscalité écologique, bon, j'ai écrit dessus. Je dirais, c'est comme la technologie. Ça doit être intégré dans une politique publique globale. Mais ça ne peut pas constituer une solution miracle en elle-même. Surtout dans la mesure où on n'a pas anticipé les conséquences, je veux dire, de mesures comme ça. Alors, il ne faut pas s'étonner si après, je veux dire, on a des surprises, quoi. La question des coûts sociaux était évidente dès le départ. Donc, il faut penser là-dessus. Et il faut mener une réflexion pour avoir une politique cohérente. Un point, c'est tout. Et donc, en fait, la question de la décélération, en quelque sorte, de la croissance, c'est une question globale, effectivement, mais si vous voulez, il n'y a pas de formule miracle. Il y a un ensemble de mesures à prendre dans tous les domaines et surtout ce que Serge Latouche appellerait une décolonisation de l'imaginaire. Alors là, il y a du travail, hein, parce que, bon, je ne veux pas citer quelques grands esprits qui nous dirigent dans la région sur quelques dossiers, hein, mais la décolonisation, là, effectivement, il y a un gros travail. Parce qu'on nous parle de désenclavement, par exemple pour les transports, mais le désenclavement des esprits est certainement une chose encore plus importante. Hein. Et là, malheureusement, ça ne relève pas d'investissement et de technologie. Hein. Voilà, alors, voilà ce que j'aurais à dire sur cette question de la taxe carbone. Alors, bien entendu, je veux dire, c'est peut-être pas une solution miracle, mais c'est un signal. C'est un signal qui est forcément révélateur d'un problème, du problème essentiel dans notre société, qui n'a jamais été sérieusement anticipé. Je me rappelle, bon, tu cites à juste titre les souvenirs d'il y a 30 ou 40 ans. Il faut comprendre que quand on abordait certaines questions, on avait des ricanements dans le public. Hein, on avait des ricanements. Alors maintenant, on peut parler librement. Ça, il n'y a aucun problème. Ce qui ne veut pas dire qu'on en tire des conclusions pratiques. Hein. Mais il y a liberté d'expression totale. Tandis qu'avant, vous aviez toujours la même ancienne, à savoir, vous voulez retourner à la diligence et à la bougie. Hein. Ce qui est une formule intéressante dans la mesure où c'est pour clore le débat. Tout simplement. C'est-à-dire, le débat était totalement impossible. Hein. Et évidemment, moi, je peux dire que j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que j'avais, dans mes souvenirs, j'avais des copains qui étaient à l'époque au PSU, etc. Et évidemment, je me faisais traiter de réac. Hein, voilà. Alors maintenant, c'est difficile à imaginer, sauf pour les gens quand même d'une certaine génération, comme la mienne. Mais il y avait une censure globale. Et mon père disait souvent, Je partage totalement son point de vue. Les sociétés sont plus aveugles que les individus qui la composent. Ça me paraît d'une vérité fondamentale. Et justement, toute son œuvre, c'est une œuvre une réflexion sur les difficultés de la démarche de liberté, c'est-à-dire de tension permanente entre la conscience individuelle et la pression sociale, avec l'idée que de toute manière, une pression sociale, il y en aura toujours, mais que si on veut progresser, il faut que les individus apprennent à, en quelque sorte, vivre cette tension, hein, je veux dire, pour, en quelque sorte, avoir accéder à une société qui serait plus vivable, en quelque sorte, plus humaine, en quelque sorte. C'est dans la mesure où les gens seraient plus exigeants. Quand on parle de... Quand c'est pas du baratin, bien sûr. Quand on parle de citoyenneté, hein, je veux dire, eh bien, de démarche citoyenne, c'est une formule. Mais si on la prend au sérieux, ça veut dire que, eh bien, on a un rapport qui est très souvent conflictuel avec les pouvoirs établis. Vous comprenez ? C'est ça, et il faut avoir ça dans tous les domaines, dans ses activités professionnelles. Ça me semble... Il faut résister au conformisme, par exemple, etc. Mais
c'est plus facile de résister au conformisme. Quand tu parles de la résistance en milieu professionnel, c'est plus facile de résister à... quand on est prof à la fac, que de résister dans une entreprise où on risque d'être viré du jour au lendemain.
Ah, ça c'est sûr. Je dois dire qu'en tant qu'universitaire, j'ai encore exercé un métier, j'ai été un privilégié. Je ne sais pas si ça va durer, mais c'est vrai que ça me donnait beaucoup de liberté, à la fois, pour me cultiver, pour exercer également mon métier, mais ceci étant dit, le conformisme universitaire, crois-moi, je sais ce que c'est. Hein? Alors là, ça fait des dégâts.
On est d'accord. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la phrase de Bernard Charbonneau, les sociétés sont beaucoup plus aveugles que les individus, et tu en concluais à juste titre qu'il faut résister à la pression sociale.
Ouais.
Mais ça veut dire, ça induit derrière ce que je disais au début de notre entretien, que ça nécessite une vitalité démocratique, enfin une grande exemplarité démocratique, si l'on veut que l'individu puisse avoir les moyens de résister à la pression sociale sans être écrasé par les institutions ou par le poids de la société.
Et puis alors, ce qu'il faut comprendre,
c'est peut-être que tu peux développer un peu cette idée qui est présente.
Effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est que les pouvoirs en place, qu'il s'agisse des pouvoirs politiques ou économiques, ont des instruments d'une puissance absolument inégalée. Et ce qu'on a comme moyen de contre-pouvoir, c'est faible. Vous voyez, regardez les associations, qu'est-ce qu'elles ont dans le combat écologique, qu'est-ce qu'elles ont instrument de résistance. Eh bien, il y a la justice. Et croyez-moi, la justice en France... heureusement, ce n'est pas la justice en Iran ou ailleurs, hein. On est tout à fait d'accord. Mais elle n'est pas d'une indépendance totale, surtout dès qu'il y a des affaires avec des enjeux politiques et économiques très importants. Et concernant la communication, ce qu'on appelle la communication, les associations, maintenant qu'en particulier on est passé au second feu vert, ce que mon père aurait appelé le second feu vert. Il y a d'ailleurs un ouvrage préfacé par mon ami Daniel Cérizuel, le premier ouvrage qui va être réédité aux éditions Parangon là-dessus, et qui est une réflexion à comment l'écologie peut être récupérée. Il faut quand même comprendre...
Tu parlais des associations qui n'avaient pas d'outils.
Oui, alors les associations, ont un accès... ont beaucoup plus d'accès aux médias maintenant. Je veux dire, elles peuvent quand même relativement communiquer par rapport à la période qu'on a connue. Hein. Je te rappellerai ce qui était arrivé à propos de la Côte Aquitaine, hein, où Noël s'est fait quand même virer de FR3, parce qu'il avait, dans les années 70, osé donner la parole à l'opposition à l'aménagement touristique de la Côte Aquitaine. Et ça, c'était jugé intolérable, et c'est Biasini, et qui avait fait pression sur le directeur d'FR3 pour s'en débarrasser. Vous voyez, et donc là, si j'ose dire, Noël a vécu sa première, une expérience politique, voilà.
Douloureuse.
Et quoi qu'il en soit, à l'époque, c'était quasiment impossible, quoi. Il fallait avoir la foi cheville au corps pour continuer à estimer que ces questions-là étaient absolument déterminantes et essentielles, en quelque sorte. Et alors que maintenant, on y accède, mais quand on voit les placards dans le Sud-Ouest et autres, de la Chambre de commerce, je veux dire, des grands élus sur des grands projets, il faut qu'il y ait, par exemple, une association comme comme les associations qui se battent contre le terminal méthanier, qui ont 6000 membres et des élus locaux avec eux, pour que là, il commence à y avoir un contre-pouvoir sérieux, en quelque sorte. Mais le combat qu'on a mené dans le sud Gironde contre l'A65 et contre la ligne à grande vitesse, on a très bien mobilisé les populations, les élus, les petits élus, entre guillemets, les plus proches de la population, mais ça n'empêche qu'on a des placards pour nous dire de la propagande, quoi. On subit de la propagande, en train de dire, oui, mais il y a eu une concertation, et je veux dire, la population a approuvé ce projet. C'est un mensonge.
Alors, on peut peut-être revenir sur, voilà, sur des exemples, mais on n'a pas à convaincre le public qui l'est déjà, je crois. Mais il y a des exemples qui sont très, très intéressants et très significatifs, très symboliques. L'exemple de la ligne à grande vitesse.
Ah oui, ça.
Le conformisme veut que c'est bien et c'est un progrès. On va revenir sur la notion de progrès.
Ah oui,
que tu, puisque c'est évident. Quand même, c'est au cœur de ton livre.
Oui.
C'est conçu comme un progrès que de pouvoir aller plus vite.
Oui.
C'est la question de la mobilité.
D'un point.
Entre Paris et Toulouse.
Oui.
Donc il est très difficile pour les associations qui se battent contre les lignes à grande vitesse, et qui sont pour la plupart d'ailleurs des associations écologistes,
oui,
d'expliquer à ceux qui d'ailleurs n'utiliseront pas le TGV pour la plupart d'entre eux, qui sont des gens qui n'auront pas les moyens parce que c'est très cher d'utiliser la LGV, c'est très difficile de leur expliquer que gagner 40 minutes entre Paris et Toulouse n'est pas forcément un progrès. Donc c'est la question dont nous avons, que nous avons amené sur la place publique avec les OGM, c'est la question de la nécessité sociale et de la nécessité du marché. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ?
C'est-à-dire que effectivement, ce qui n'est pas du tout intégré dans, je dirais, la pensée politique de gauche, c'est les coûts sociaux du progrès technique. Et en particulier, le fait que plus une technique est puissante, sophistiquée, plus les investissements sont énormes et plus elle sera réservée à une catégorie sociale privilégiée. Et la caricature, c'est lequel ? Laquelle ? L'exemple caricatural, c'est lequel ? Mais je veux dire, il a fini par se cracher. C'est Concorde, bien entendu. Ou alors le prix du billet pour aller à New York, c'est le cas limite. Et si on prend la LGV, bien on prend le sur Strasbourg, j'ai vu que la SNCF avait augmenté considérablement les tarifs. Et alors avec des concessionnaires, en plus, bien maintenant, vous pouvez être sûr du résultat. Et pour l'autoroute, pour la 65, c'est dans un premier calcul, Bordeaux-Pau, tant que je me rappelle, il y a peut-être quelqu'un qui me démentira, c'était 22 euros le péage. C'est 22 euros le péage, en attendant, évidemment, que ça monte, parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait.
Donc derrière, pour montrer comment on peut tirer la ficelle de la bobine, derrière la LGV se pose la question de la nécessité sociale et la nécessité du marché, de cette question de la mobilité, d'une certaine idée du progrès. Mais si on débat vraiment, si on avait vraiment débattu de la taxe carbone, on pourrait expliquer que avec les milliards d'euros que l'on dépense pour gagner 40 minutes entre Paris et Toulouse, ces milliards d'euros pourraient servir précisément, et on va employer le mot tabou, à désenclaver des familles qui ont été contraintes à aller loin des villes, qui ont été reléguées loin des villes, et l'étalement urbain est une des principales causes de l'effet de serre, et qui sont aujourd'hui otages de leur voiture. Donc c'est pour bien démontrer que la réflexion de l'écologie, elle va beaucoup plus loin que le simple refus quasi que l'on pourrait considérer comme
primaire,
théologique d'un train. Vas-y, Simon.
Alors, il faut comprendre que de la relativité du progrès, eh bien, c'est dommage, mais là, vous voyez, si on avait eu, en quelque sorte, un vidéoprojecteur, j'aurais pu vous projeter la carte des chemins de fer de 1914, et pour l'Aquitaine. On pouvait aller partout. On pouvait, et des tramways. On pouvait aller partout. Mais pas à la vitesse de la lumière, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais on pouvait aller partout. Hein. Et quand on voit ce que c'est devenu maintenant, je veux dire, effectivement, c'est là où on voit qu'une technologie comme la voiture peut induire un changement complet de société, en quelque sorte. Et donc maintenant, on est captif de la voiture. Et le paradoxe, c'est que les gens qui ont le moins d'argent vont effectivement faire construire à l'extérieur, et donc ils ont des coûts, ils ont une empreinte écologique plus grande que ceux qui restent en ville. Et de même, inversement, ce qui n'a pas du tout été pris en compte, c'est les gens qui sont, qui vont travailler à la campagne, je veux dire loin de la ville, et bien se retrouvent exactement dans le même cas de figure, en quelque sorte. Et effectivement, de ce côté-là, la réflexion, eh bien, les politiques font pas leur travail, quoi. C'est, ils sont pas arrivés à des conclusions spécialement convaincantes. Bon, je voulais dire autre chose et puis j'ai oublié. Mais ça va revenir. Oui.
Donc, on s'interroge sur la question du progrès.
Oui.
Donc, c'est toi qui disais, on regarde la carte de chemin de fer de 1914, on s'aperçoit qu'on pouvait aller partout.
Oui.
On peut aussi dire aujourd'hui que, par exemple, si vous allez en Ardèche, dans certaines parties de l'Ardèche, le ramassage scolaire se fait maintenant en taxi. Il se faisait en train, après il s'est fait en autocar, et maintenant il se fait en taxi parce qu'il n'y a plus de train ni d'autocar. On pourrait prendre un exemple beaucoup plus proche de nous, qui est l'exemple de la ligne Pau-Canfranc, où on descend en car et maintenant avec des camions.
Autre aspect qui n'est absolument pas qui illustre parfaitement l'incohérence des politiques publiques, si vous voulez. Quand on a toutes les politiques publiques de concentration des services, concentration des structures sanitaires, concentration de la poste, des services de poste, etc., des tribunaux, etc., on a fait le bilan carbone de tout ça? Parce qu'on vous dit, c'est plus rentable et rationnel de concentrer les activités. Ça, c'est des calculs, complètement biaisés et à court terme, hein, parce que les coûts externes sont complètement occultés. Hein, ce que les économistes appellent les coûts externes.
L'internalisation du coût.
Bon, et ça, c'est encore un exemple. La réflexion politique, elle est vraiment, de ce point de vue-là, au niveau zéro, alors surtout dans la mesure où on veut faire de la communication. Plus vert que moi, tu meurs. Ouais, ça, c'est bien connu maintenant. Et voilà.
Alors, il faudrait que tu reviennes sur un certain nombre d'idées qui sont défendues dans la revue à laquelle tu appartiens, où tu es très actif, qui s'appelle Entropia, qui est une revue d'écologistes, on va dire, à la pensée relativement considérée comme radicale.
Oui. Mais pas socialiste.
Non, certainement pas, fort heureusement pour eux. Et donc revenir à un certain nombre de questions qui sont posées aussi dans ton livre. Par exemple, la question de la décroissance.
Oui.
Alors la décroissance, c'est un mot qui fait peur, qui peut servir de nouvel emblème. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, provoquer un rejet, notamment de la part de ceux qui aujourd'hui sont jetés à la rue parce qu'ils sont au chômage.
Si on leur parle de la décroissance,
ces gens-là, ils vont dire de la décroissance de quoi? De quoi? C'est comme lorsque les écologistes, puisque c'est nous les premiers qui avons parlé de ça, quand on a parlé du partage du travail. Et le partage du travail, quand vous parlez à un chômeur du partage du travail, ça ne lui parle pas beaucoup. Donc c'était une erreur sémantique.
Oui.
Donc derrière la décroissance, qu'est-ce que tu mets, toi?
Bien, en fait, je vais vous dire, moi, j'aime pas tellement utiliser cette expression, parce qu'en fait, c'est elle a été choisie pour son côté polémique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on prend le contre-pied de l'idéologie de la croissance, en quelque sorte. Étant donné qu'on nous assène ça, l'idéologie de la croissance est une idéologie dominante, on nous assène ça tous les jours. Et d'ailleurs, après la crise, vous savez, ça va être la sortie du tunnel. Hein. Je veux dire, on va pouvoir continuer comme avant. Hein. C'est ce qu'on nous expliquait, en tous les cas.
Ça, on y reviendra sur l'idée que la technologie peut nous sauver de la situation.
Voilà.
C'est-à-dire encore se jeter dans les bras de la technique sans aucun contrôle.
Et donc, si vous voulez, le terme de décroissance, bon, je l'emploie parce que je participe à une revue dans un mouvement où on emploie ce terme, mais j'aime mieux le terme objecteur de croissance. Hein. Objecteur de croissance, ça me convient davantage, en quelque sorte, parce que, et avec l'idée que dans certains secteurs, il pourrait y avoir croissance, d'ailleurs. Par exemple, croissance de l'agriculture paysanne, par exemple. Il peut y avoir, mais enfin, ça n'obéit plus du tout à l'idéologie, à ce qu'est l'idéologie dominante sur la croissance, c'est-à-dire l'idéologie dominante, de la croissance. C'est focalisé sur l'importance des investissements et la puissance des technologies utilisées. C'est ça. C'est toujours dans une démarche prométhéenne, en quelque sorte. Alors, on a certainement besoin un peu de croissance dans certains domaines. Mais moi, le concept que je défends essentiellement, c'est le concept d'équilibre durable. Parce que, effectivement, par rapport à la notion de développement durable, la notion de développement, par définition, eh bien, comme il y a une amalgame, en fait, le fond du problème, c'est que c'est un usage détourné du sens du terme développement. Alors, si c'est le développement des qualités morales, de la civilisation, etc., de ces dimensions humaines qui me paraissent essentielles, alors là, effectivement, il n'y a rien à dire. Au contraire, on peut estimer que ça peut être sans limite. Hein. Mais le terme de développement, en fait, c'est repris, c'est le terme, ça concerne uniquement le monde matériel, en quelque sorte. Ça concerne l'économie, la technique, etc. C'est ça, ce que ça concerne, le terme développement. Même si, après, on rajoute quelques discours sur la dimension de l'éducation, etc., etc. Alors, cette notion de développement, si vous voulez, il faut une remarque, ça c'est très important. On a abandonné la notion de progrès, qui était effectivement, elle, beaucoup plus ambivalente que la notion de développement. Après la guerre, on a choisi ce terme de développement, c'est, je crois, les Américains qui ont lancé des programmes de développement. Truman, au plan international, qui a lancé ça. Et la notion de progrès a été un peu abandonnée, en quelque sorte, un peu, même beaucoup. Hein, parce qu'elle faisait, à mon avis, c'était une notion qui faisait trop référence à, justement, des dimensions d'ordre moral et politique, en quelque sorte. Avec l'héritage de la philosophie des Lumières, en quelque sorte. Et donc, ça a été abandonné. Et donc, pour revenir à cette notion de développement, moi, je préfère la notion d'équilibre. Parce qu'on nous présente chaque fois le développement durable, vous savez, avec les trois cercles, donc le social, l'économique et l'environnement, et on vous dit, c'est ça le développement durable. Seulement, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est le développement de la sphère économique et technique, uniquement, et au détriment des autres. Hein, c'est ça ce qu'on ne veut pas, c'est ça ce qu'on veut pas se poser comme question. Dans la mesure, en particulier, où ça c'est occulté toujours, à savoir que les coûts du développement sont exponentiels. C'est-à-dire qu'effectivement, au début du XXe siècle, on pouvait dire que le développement avait, enfin pour les pays les plus développés, je dis, parce que pour certains pays du tiers-monde, ça a encore un sens, hein, on est tout à fait d'accord. Au début du siècle, effectivement, le développement avait un sens, le progrès technique et économique avait un sens, en quelque sorte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'accumulation des coûts multiformes, hein, coûts sociaux, politiques, écologiques, etc. C'est ça ce que j'avais essayé d'expliquer lors des débats publics sur la LGV, c'est que les gains de temps, je veux dire, se traduisent par une explosion des coûts. Je veux dire, et ça, même financier, économique en tout genre. voyez. Et ça, les ingénieurs qui étaient à la tribune, ils n'avaient pas de réponse là-dessus. Parce qu'après, on aura un super TGV qui nous fera gagner un quart d'heure, voilà, en quelque sorte, avec des coûts monstrueux. Et si vous voulez, donc, c'est la problématique des limites. Dans la notion d'équilibre, il y a la problématique des limites. Et le problème, c'est que dans notre société, je veux dire en particulier du côté des gens qui nous dirigent, eh bien, la question des limites, eh bien, il y a une espèce de rejet là-dessus. C'est ça, l'esprit prométhéen, c'est ça. Mais croyez-moi que la nature va se charger, elle se charge déjà de nous rappeler à l'ordre, et c'est pas fini. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, ce que j'entends souvent, faut sauver la planète. Non, attendez, c'est l'homme qui va sauver la planète.
Et pourquoi pas?
Mais non, mais... Non, mais c'est pas l'homme qui va sauver la planète, c'est l'homme qui va respecter et la planète, mais dans un rapport de pouvoir, je veux dire, mais la planète, elle emportera toujours. C'est l'humanité qui va... Si, justement, l'humanité n'apprend pas à respecter la nature, à tenir compte et des contraintes naturelles que la nature nous impose, etc., eh bien, je veux dire, alors là, l'homme perdra la bataille, ça c'est sûr. Non. C'est ça ce que je veux dire.
Tu peux peut-être revenir sur une idée qui n'est pas neuve,
oui.
Mais à laquelle d'ailleurs, dans laquelle s'inscrivent la plupart des écologistes français par rapport aux écologistes américains qui sont plutôt dans la logique de la sanctuarisation, comme le WWF ou quelques grandes organisations internationales, alors que la pensée française, c'est plutôt de dire que l'histoire de la relation de l'homme à la nature, ça a toujours été l'histoire d'un combat pour la maîtrise de la nature,
oui.
Et comme tu poses le problème de la limite, c'est la question de la maîtrise de la maîtrise.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux développer
oui.
ça
Bah, oui, si vous voulez, que l'homme, que dans une phase du développement ou du progrès de l'humanité, en quelque sorte, l'homme se soit battu avec la nature pour arriver, en quelque sorte, à l'humaniser et à avoir accédé quand même à un certain niveau de confort matériel, on comprend très bien, ça a du sens, en quelque sorte. Mais, par contre, dans la mesure où maintenant, il y a une seconde nature, qui est la société technique et économique, on est dans un monde de plus en plus artificiel, et qui nous échappe complètement, si vous voulez. Et donc, notre problème maintenant, ce n'est plus la maîtrise de la nature, c'est, si j'ose dire, la maîtrise de la seconde nature, en quelque sorte. C'est ce que mon père a développé dans un ouvrage d'aphorisme, en quelque sorte. Et donc, on est arrivé à un stade d'évolution de l'humanité où l'homme doit, en quelque sorte, en réfléchissant sur ses moyens, effectivement, il doit se poser la question... Est-ce que pour arriver à une certaine maîtrise du déferlement technologique, eh bien, on ne doit pas dire stop. C'est-à-dire maintenant, on est arrivé à un certain seuil et on doit choisir nos technologies, mais on ne doit plus subir cette espèce de déferlement technologique qu'on est en train de subir de manière clandestine, comme toujours, par exemple avec les nanotechnologies. Et nanotechnologies, maintenant, on nous les a fourguées dans certains de nos produits de consommation et on est en train de continuer à faire les mêmes choses, excusez-moi, les mêmes sottises que l'on a déjà faites auparavant. Hein, vous voyez, ça ne sert pas de leçon, non, ça ne fait rien. Allez, continuez, allez-y, très bien.
Et il faut ajouter d'ailleurs que la France est un des pays dans lequel les nanotechnologies sont très développées. Il y a maintenant un centre à Grenoble, qu'il y a une association très active et très radicale qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, qui
oui,
remet
PMO.
En cause
ah,
le,
oui.
Le développement des nanotechnologies sans contrôle démocratique. Donc c'est vraiment une illustration, j'allais dire quasi parfaite, de la théorie des Lulles sur la question de l'autonomie de la technique.
Oui, ah, oui, tout à fait, oui.
Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des financements de ce que Günther Anders appelait la honte prométhéenne. C'est ce qu'on appelle la convergence, le rêve des transhumanistes, dont un coureur est un très bon symbole. Ce rêve des transhumanistes, c'est la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des TIC et des sciences cognitives. Et ce mouvement des transhumanismes, ou de ce qu'on appelle l'homme augmenté, ou de ce qu'on appelle la singularité, c'est un mouvement qui consiste à imaginer que demain, la part de l'homme dans ce nouveau prototype sera minime. Et en fait, comme l'analyse un certain nombre de philosophes, comme Jean-Pierre Dupuy dans La Marque du Sacré ou Jean-Michel Beignet dans Demain les post-humains, c'est en même temps une nouvelle servitude dans laquelle l'homme va entrer, qui va se livrer pieds et poings à la technique sans même pouvoir la contrôler. Donc, moi j'aimerais que tu dis qu'il faut qu'on s'impose des limites.
Oui.
Mais on voit bien que pour que les sociétés s'imposent des limites, il faut qu'elles trouvent des systèmes de consensus. Ça implique encore la question de la délibération, de la démocratie et du choix d'une société. Quand on est dans une société comme la France, où par exemple, on n'a pas le droit de choisir sur le nucléaire parce que c'est décidé dans notre dos par des experts et un corps d'État qui s'appelle le corps des ingénieurs des mines, ou qu'il faut aller devant les tribunaux payer cher pour qu'on impose la clause de sauvegarde sur une OGM, c'est quand même compliqué. Oui. Alors vas-y.
Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que les techniques peuvent être assimilées, mais il faut un temps de maturation. Et alors le problème, c'est qu'on a l'impression d'être dans ce déferlement technologique qui, pour l'instant, c'est une question qui ne rentre pas encore dans le champ politique, je trouve. Que autant la question du déchaînement du marché, c'est une critique qui est parfaitement intégrée à juste titre, autant le déferlement, la question du déferlement technologique ne rentre pas dans le champ politique, il n'y a que quelques groupuscules comme pièces et main-d'œuvre qui effectivement soulèvent ces questions. Elle n'est pas assez prise en considération dans le mouvement écologique. Pardon. Et ce qu'il y a de certain, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est le rythme, la rapidité du processus à l'heure actuelle. Alors, on débouche, on va se retrouver dans une société, je veux dire, l'homme est perdu. L'homme, ne comprend plus, je veux dire, le monde dans lequel il vit. Et c'est ça ce qui est grave ici, parce que pour que la démocratie fonctionne, il faut que, justement, qu'il y ait un minimum de culture, d'assimilation culturelle du phénomène technique, etc. Alors on a beau faire des débats publics, des concertations, etc., etc., tout ça, c'est une large part de mise en scène, vous comprenez, parce que c'est souvent débat public face à un fait accompli. Si vous voulez, c'est le débat public après fait accompli. Alors, il va y avoir un débat public, effectivement, sur les nanotechnologies, organisé par la CNDP, la Commission nationale du débat public, mais alors que c'est déjà en cours. Il y a des investissements, il y a des programmes de recherche, etc., etc. Et puis, alors là, il va y avoir une opération
de produits que nous utilisons, dans lesquels il y a de la nanotechnologie.
Voilà.
Je pense en particulier à des produits de beauté, des crèmes solaires, à des pneus, à toute une série de choses comme ça.
Et c'est pas fini, et c'est parce qu'il y a ce qu'on ne connaît pas. C'est ça ce qu'il y a de terrible. C'est qu'il y a ce que les médias nous diffusent, ce qu'on peut retenir à travers nos lectures, à travers également tout ce nouvel instrument de communication qui est ambivalent. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, qui est Internet. Je veux dire, par Internet, on accède à des informations qu'on n'aurait pas eues. Ça, c'est déjà un peu, heureusement, un contre-pouvoir. Mais il y a de la désinformation aussi.
Internet, vous pouvez même aller voir d'ores et déjà des images d'expériences qui sont menées, notamment à l'université de Berkeley. C'est ce qu'on appelle les exosquelettones. C'est des applications principalement militaires. Évidemment, l'Internet était d'abord militaire, à usage militaire. Les nanotechnologies, tous les efforts qui sont déployés sont principalement déployés dans le secteur militaire. On travaille par exemple aujourd'hui sur les nanosoldats. Comment rendre un soldat invisible? Et les exosquelettones, moi j'ai vu sur YouTube, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, Comment un soldat peut transporter 250 kilos sur son dos en courant? Parce que il y a un système qui fait qu'il a le sentiment d'avoir que 10 kilos sur son dos. Mais ouais. on peut aussi aller sur, ouais. sur les mêmes sur Internet et voir ce qui se passe chez les Japonais, et notamment sur la question des robots. Et même, ils sont en train de fabriquer des robots qui peuvent avoir des réactions quasi humaines. Donc, c'est vrai que là, on est dans l'utopie, mais une utopie qui est à l'œuvre en même temps, qui est financée. Et la question qu'on doit se poser, c'est quels sont les moyens juridiques, démocratiques, que l'on peut mettre en œuvre et que l'on peut bâtir pour justement répondre à ton livre, pour résister. Et là, je parle des sociétés développées, parce que nous n'avons rien dit sur ceux qui aujourd'hui sont les principales victimes, par exemple, du bouleversement climatique, et qui sont, en termes d'empreinte écologique, très largement en dessous de nous. Mais c'est eux qui vont payer les premiers. Donc c'est aussi le problème des inégalités liées à notre mode de vie.
Alors, d'abord...
Sur le premier point.
Sur le premier point, je dirais que tous ces chercheurs qui sont dans des dérives d'utopie technicienne, comme il y en a eu bien avant eux, d'ailleurs, à la limite de la science-fiction, ils n'ont absolument pas retenu ce qui est arrivé entre-temps, c'est-à-dire la question des limites. La question des limites, elle ne concerne pas simplement la nature, elle concerne l'homme aussi. L'homme n'est pas une pâte malléable, comme ça, et tout quel va être l'impact à la fois physiologique, psychologique de ces nouvelles techniques. Quels vont être les dégâts? Il y a déjà beaucoup de maladies mentales. Hein? Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, ce genre de... Non, mais je veux dire, c'est quand même une interrogation légitime. Là aussi, l'homme, il y a une nature humaine, il y a une physiologie, etc., etc. Je veux dire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le type, il aura peut-être l'impression de courir avec 100 kilos sur le dos, mais il va peut-être crever une crise cardiaque. Hein? Vous comprenez?
C'est possible.
C'est possible. Voilà, au second...
La deuxième question, c'était...
Ah oui, c'est sur les... Comment les
c'était
droits.
La question des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres, et comment, finalement, nous sommes en train d'accabler... C'est la question que nous débattons souvent, des injustices sociales et des injustices environnementales. Et en général, ce sont les victimes d'injustice sociale qui sont les premières victimes d'injustice environnementale. C'est ce que moi j'appelle la double peine.
Oui. Je dirais que si vraiment il y a un effondrement du système économique mondial, j'entends dire que souvent le Sud, ça va être absolument catastrophique pour le Sud. Certainement, ça va être certainement catastrophique pour les pays qui sont le plus engagés dans le modèle industriel. Mais pour les pays qui sont restés vraiment à des technologies encore très primitives, l'impact ne va pas être terrible, vous savez. Je prendrai comme exemple la crise de 29, par exemple. La crise de 29, elle a atteint les pays les plus développés et l'industrie uniquement. Mais dans les campagnes françaises où vous aviez encore la traction animale, je veux dire, et l'autarcie, la production autarcique, c'était pas tellement une question qui se posait, vous voyez. Alors bon, il y a cet aspect-là, moi je suis très nuancé là-dessus. Bon, ceci étant dit, notre responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de ces pays, c'est qu'on a complètement propagandé, on peut dire, les élites de ces pays qui n'ont qu'un seul modèle dans la tête, le nôtre. Vous voyez ? Et donc, il n'y a qu'un seul objectif, nous rattraper. Voilà. Et alors, effectivement, quand les Chinois auront tant de bagnoles que nous, et ça va vite, hein ? Ça va vite. Mais croyez-moi...
C'est pas non plus exactement ça, parce que les Chinois ont compris un certain nombre de choses.
Les Chinois réagissent, ouais. Ils ont face à des défis absolument énormes. Mais c'est vrai qu'ils assimilent très rapidement l'écoute du progrès, du développement.
Avant les questions, pourrait terminer sur le sujet que tu as évoqué, sur l'homme qui est complètement perdu.
Oui.
Et donc moi, je préfère l'appeler sur... évoquer la question de la vulnérabilité.
Vulnérabilité
du monde liée au réchauffement, au bouleversement climatique, et la vulnérabilité des hommes.
Oui.
Alors, c'est pas simplement la vulnérabilité par rapport au climat, C'est non. la vulnérabilité par rapport à sa condition.
Ouais.
Et avec d'ailleurs des indicateurs très, très intéressants. Le fait que, par exemple, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont toujours considéré, dans leur imaginaire,
oui.
ils ont toujours pensé qu'on vivrait mieux qu'eux.
Oui, oui.
Alors, et aujourd'hui, on est dans une inversion alors... historique où notre génération pense que nos enfants vivront moins bien que nous. C'est aussi une forme de vulnérabilité.
Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que comme je suis en train d'écrire un bouquin sur la nostalgie, justement, le retour de la nostalgie, il y a un changement historique, un changement de paradigme total aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, on avait le regard tourné vers l'avenir. Moi, j'en voyais les inconvénients, l'écoute, etc. Mais de manière dominante, il y avait un optimisme, si vous voulez, l'optimisme progressiste, en quelque sorte. Et on vivait dans une certaine insouciance. Je veux dire, ma jeunesse, je l'ai vécu.
Toute notre génération n'avait ni le chômage ni le sida.
Ben oui, non, mais c'est...
Et
on n'était pas conscient des problèmes écologiques. C'est... Voilà. Et alors que, évidemment, maintenant, c'est, si j'ose dire, on peut mettre un titre « Fini la rigolade ». Ça, voilà, c'est, on peut dire ça, mais on a laissé une société. Il faut voir quel cadeau, hein. Les jeunes générations vont pouvoir nous remercier, hein.
Donc développe un peu la question de la vulnérabilité, si tu veux, puis on va.
Oui, ben la vulnérabilité, je veux dire, c'est une accumulation de causes et qui fait que qui a, je veux dire, sur les populations. Sur les catégories en particulier les plus fragiles, et évidemment, la réponse, leur capacité de réponse, citoyenne en quelque sorte, elle est nulle. C'est ça, elle est de plus en plus. Les gens ont l'impression d'être écrasés en quelque sorte. Les gens ont l'impression. Mon père parlait concernant le développement, il parlait de l'avalanche, je veux dire. L'impression d'être pris dans une avalanche, en quelque sorte. Mais on a peut-être cette pression, mais alors, c'est pas la peine d'appuyer sur l'accélérateur en plus. Hein. Voilà. Hein. Si on avait déjà ça en moins. Hein.
C'est très bien analysé par un sociologue qui s'appelle Robert Castel. C'est la notion de précariat qu'il développe. C'est très intéressant. Merci beaucoup.